Bonjour à tous. Alors, il n'y a pas d'enfants que des grands-enfants dans le Seigneur. En tout cas, merci de louange pour ce merveilleux moment. Et je ne sais même pas, j'ai envie de rester dans ce moment de louange. Et s'il n'y a personne comme Jésus, alors moi, je ne peux pas vous apporter grand-chose, mais quand même, les chrétiens, quand ils se rassemblaient, ils étudiaient ceux qui avaient été témoins. Et je pense à ce chant qu'on disait, avec mes faibles mots, qu'est-ce que je peux faire? Alors on va surtout essayer de prendre les mots de la parole de Dieu, parce que c'est elle qui parle. Moi, je ne peux pas vraiment vous parler. C'est vraiment ma prière. Et je dois prier pour ça, parce que je sais que ce soit Dieu qui parle et qui ouvre nos cœurs. Hélène me disait ce matin, vous avez réalisé les pèlerins d'Emmaüs qui marchaient. Jésus, toute la journée, leur explique les saintes écritures. C'est Jésus qui est avec eux. Toute la journée, il leur dit, depuis le début, depuis Moïse, comment toute la parole était là pour parler de... Ils ne voient pas que c'est Jésus qui ne prenne pas. Le soir, il prend, il partage le pain et le vin, il les dit, leurs yeux s'ouvrirent. Et c'est ma prière. Je peux vous parler longuement, faire des théories, faire des études scientifiques, on peut faire de la théologie approfondie pendant les heures de la Bible. Mais si Jésus n'ouvre pas notre cœur, c'est ma prière ce matin. Amen. Que Jésus ouvre notre cœur à ce qu'il a voulu nous dire, pas moi, et c'est pour ça que je voudrais prier. Seigneur, je te prie, Seigneur, je ne peux pas, par mes paroles, toucher, mais c'est toi qui touches les cœurs. J'aimerais ce matin que nous puissions encore plus, comme on l'a chanté, vivre dans ta présence, qu'on réalise qui tu es, parce que tu nous as dit que tu étais le chemin vers le Père. Tu nous as donné l'accès au Père parce que tu nous aimes, parce que tu aimes chacun qui est dans cette assemblée ce matin, parce que tu veux changer. Nous ne sommes pas tous au même stade avec toi, Jésus. Ce n'est pas grave parce que toi, tu connais chacun d'entre nous. Tu connais chacun où il est ce matin. Tu sais où tu en es vis-à-vis de Jésus. Oh, merci Seigneur, parce que Seigneur, ta parole veut nous faire du bien. Qu'elle soit comme un rayon de miel ce matin dans les cœurs, un rayon de miel qui nous fasse du bien, qui nous transforme, qui nous donne et qui nous ouvre, car c'est ce qu'elle fait au large, les portes de la vie éternelle. Amen. Alors, ce matin, et comme souvent, je ne sais pas, quand ils vont demander si je vais faire la prédication, c'est toujours lourd, de quoi, qu'est-ce que tu m'aimes, et c'est toujours mon épouse. Alors je sais que si c'est mon épouse, c'est que le Seigneur lui a parlé, elle me donne ce passage, un verset qui m'avait... une partie de Dieu dans ce livre qu'elle lit, Dieu doux et humble de cœur, le cœur de Jésus, il est dit, Jésus intercède pour nous. Et je l'ai lu, je lisais les passages, et tout d'un coup j'ai réalisé quelque chose que je n'avais peut-être pas réalisé pendant 40 ans de vie chrétienne. Jésus intercède pour nous, c'est le sujet, je voudrais vous partager mes réflexions, mais vraiment que ça soit... que ce soit le cœur du Seigneur Jésus lui-même qui nous mette dans cette écoute. Donc, lisons ensemble le passage Hébreux 7, les versets 22 à 25. Jésus est devenu par cela même le garant d'une alliance supérieure. De plus, les prêtres se sont succédés en grand nombre parce que la mort les empêchait de demeurer. Mais lui, parce qu'il demeure toujours, il possède un sacerdoce inaliénable. C'est pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, puisqu'il est toujours vivant pour intercéder en leur faveur. C'est là les deux seuls endroits dans la Bible où on voit qu'il intercède en notre faveur. Il intercède, il est toujours vivant pour intercéder en votre faveur. Et j'ai pris conscience, peut-être de quelque chose, j'aimerais qu'on réfléchisse, mais que fait Jésus en ce moment? Comme chrétien, avec l'étiquette évangélique, évidemment, on prêche souvent le passé, le salut par la grâce, la rédemption, comme on dit, la rédemption. Jésus est mort pour la croix, pour les péchés, et ça, il l'a fait. Et il a acquis notre salut. Une fois pour toutes, certes. Et nous prêchons quoi? En général, en prédication, le futur. le retour de Jésus dans sa gloire, ou notre vie éternelle, si nous partons avant son retour, pour la plupart, dans la présence glorieuse de Jésus. Ça, c'est notre espérance, le futur. Mais qu'en est-il du présent? C'est quoi le présent? Que fait Jésus en ce moment? J'aimerais que vraiment, si on puisse le réaliser. Eh bien, ce passage de la Bible nous le dit de façon assez limpide. Il est toujours vivant. Jésus est vivant. Ce Jésus qui est venu sur la terre est vivant, du moins si nous avons la foi, pour intercéder en notre faveur, du moins si nous nous approchons de Dieu par lui. Et donc, c'est cette réflexion que j'ai approfondie. Alors là, c'est une réflexion intellectuelle, à vous de réfléchir. Je prie vraiment que ça vous encourage. C'est quoi un intercesseur? Dans le sens général, un intercesseur est une tierce personne qui vient se placer entre deux autres. Intercéder, il plaide en général une cause en faveur d'un autre. Donc dans le cas de nous, croyants, peuple de Dieu, Jésus est entre Dieu le Père et nous, et il intercède, c'est-à-dire il se met comme notre défenseur et il plaide notre cause auprès du Père. Eh bien, c'est cela qu'il nous a dit qu'il fait. Mais ce qui m'interpellait, et je sais qu'il y a eu des désaccords, hein, si vous regardez de la théologie sur ce terme, mais pourquoi il intercède finalement? Puisqu'il a, on dit, il a tout payé. Il a payé le prix. Tout est accompli, n'est-ce pas, à la croix? Alors pourquoi Jésus devrait-il intercéder? Alors, je pensais ce que je crois être dit, en tout cas avec les paroles de la Bible. Certains pensent qu'il intercédait par rapport au péché passé, mais il est clair, premièrement, que Jésus, et ça, j'aimerais vraiment vous dire que c'est écrit dans la Bible, Jésus prie pour nous, chrétiens, aujourd'hui. Car cela apparaît dans la prière, ça se dit sacerdotale, en Jean 17, 20. Il prie pour les apôtres avant de monter au ciel, et regardez ce qu'il dit en Jean 17, 20, « Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, c'est-à-dire par la parole des apôtres. » C'est pour nous. Cette parole, elle est pour nous. Jésus a dit qu'il prierait pour nous auprès du Père. Mais justement, qu'est-ce qu'il prie? Qu'est-ce qu'il prie? C'est, eh bien, la réponse, en tout cas, une des réponses, me semble être dans l'autre partie de la prière sacerdotale en Jean 17, 15. Il faut lire toute cette prière, je prie que quelques extraits. Jean 17, 15. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Jésus aurait pu nous enlever, c'est souvent la prière aussi de Paul, que j'aille au ciel. Non, mais Jésus lui a dit, je ne nous ôte pas du monde. Et donc, comme nous sommes dans le monde, il sait que nous serons tentés. Eh bien, Jésus prie en ce moment pour nous préserver du mal. Est-ce que ce n'est pas rassurant de se dire que moi, peut-être, je ne sais pas le faire, mais Jésus, maintenant, il prie pour moi. Peut-être je ne suis pas assez fort pour cela. Jésus prie pour toi. Et c'est, n'est-ce pas rassurant? Et aussi le fait qu'il prie cela me semble bien démontré dans la prière du Notre Père. Il n'y a pas beaucoup de choses dans le relisez tout le Notre Père. En Matthieu 6, 13, qu'est-ce qu'il nous demande de prier, Jésus? Alors, selon les traductions, Matthieu 6, 13, « Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. » N'est-ce pas la prière qu'il a faite auprès du Père? Délivre-le du mal. C'est pour cela que nous avons besoin de cet intercesseur. Parce que nous avons un grand ennemi. Il ne faut pas en avoir peur, c'est Satan qui va faire que nous péchions pour ne plus être en communion avec le Dieu qui est saint. C'est pour cela qu'il prie. On le voit plus loin dans Jean 17, en Jean 17, 17 à 19. Jésus prie pour notre sanctification. Jean 17, versets 17 à 19. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. » À nouveau, Jésus nous dit, il nous a envoyés dans le monde et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Alors, c'est pas le sujet de la prédication, on pourrait vraiment réfléchir à comment être sanctifié. On a une petite réponse ici quand même, par la parole de Dieu. D'ailleurs, Jésus, quand il est lui-même tenté, qu'est-ce qu'il utilise ? Il utilise chaque fois des versets de la parole de Dieu. Et je dirais, une autre réponse, je l'ai mise là, c'est par l'esprit. Il dit, vivez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Il y a l'esprit et la parole de Dieu. Mais ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est que je voulais faire réaliser que nous avons quelqu'un qui intercède pour nous. Il l'a dit. Est-ce que vous croyez que Jésus, qui était attentif à ses disciples quand il était sur terre, à ses disciples pour qu'ils priaient, il nous a abandonnés? Non, comme le disait notre sœur dans sa prière, Jésus est là, il intercède. C'est ça qu'on peut sentir ce matin. Ainsi, la réalité, c'est que nous, si nous avons été justifiés par la grâce infinie, à la croix, par le sang, c'est pour avoir une vie transformée et sanctifiée. Et c'est donc un message, un appel à la sanctification. On a beaucoup, peut-être une tendance dans les siècles de passé, la justification, pas la justification, la vie éternelle. Mais notre vocation sur terre, c'est la sanctification. Et cela, on le retrouve très largement dans tous les épîtres. Les lettres de Paul, de Pierre, j'ai juste voulu citer Pierre, en 1 Pierre 1, 14 à 16. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Mais puisque celui qui vous appelait est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qui est écrit, vous serez saints, car je suis saint. Donc, nous devons réaliser que dans le monde où nous sommes avant de rejoindre Jésus dans sa vie éternelle, notre combat est un combat contre le péché, mais pas le péché des autres, notre péché. C'est le combat de tous ceux qui ont accepté Jésus-Christ. Et je vais citer beaucoup de versets parce que je ne me sens pas apte, mais qu'il vous parle, si vous les reprenez. Romains 3, 22 à 23 le dit clairement aussi. Mais maintenant, étant affranchi du péché et devenu esclave de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Le fruit présent, c'est la sainteté. C'est qu'on n'aime pas ces choses, c'est une prédication qu'on appelle la sainteté. Il y a même des églises, quand c'est du mais, je vous dis une bonne nouvelle, c'est que Jésus est mort pour nous. Pourquoi c'est la sainteté? Parce que, comme la suite du verset que vous connaissez peut-être bien, le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est cela, cet accès incroyable que nous avons. Et c'est pour ça que nous avons un intercesseur. Je parle donc maintenant, et ce n'est pas moi qui le sais, mais pour la plupart d'entre vous, ceux qui ont déjà accepté Jésus-Christ comme leur Seigneur, Sauveur, qui ont donné leur vie, qui sont passés dans les eaux du baptême pour s'engager pour lui. Pour les autres, je voudrais juste dire, si vous n'avez pas fait ce pas aujourd'hui, si vous n'avez pas encore eu cette révélation, eh bien, Jésus vous aime. Et ce matin, plus tard dans la journée, Jésus peut vous pardonner de tous vos péchés. Il peut vous rendre plus bon que neige. Ces péchés passés, il peut les effacer comme il le dit. Il peut les effacer et vous rendre plus grand si vous lui confessez et si vous venez à lui d'un cœur sincère. Vous pouvez recevoir cette grâce, être racheté pour ne pas aller dans l'enfer éternel. Mais, parce que nous sommes dans les temps de la grâce, Hébreux 3, 7, 8, je voudrais dire que c'est un temps exceptionnel que nous vivons. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Jésus vous aime et il peut pardonner vos péchés. Mais si nous avons accepté Jésus dans notre vie, si nous avons fait la démarche de marcher avec lui, si même nous le faisons depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, il y a eu un autre combat qui a commencé. Ce n'est pas Rose. Un autre combat, celui contre le péché. Mais n'ayons pas peur de ce combat, c'est ça que je voulais vous transmettre. Car nous avons un intercesseur, un médiateur qui prie pour nous dans le ciel, Jésus, et il a déjà vaincu Satan.
Amen.
Et il intercède, comme il le dit dans cet autre passage, Romains 8, 34, qui les condamnera ? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Voilà, c'est ça notre prière, c'est réaliser cela. C'est pas de lire par l'intelligence, parce que nous réalisons ce que fait Jésus pour nous en ce moment. Et je vais vous dire que pour nous avons le médiateur parfait pour cela. C'est ce que nous dit le verset juste avant, en 7:23. Avant, il y avait des médiateurs ou des intercesseurs. C'était Moïse a été un intercesseur, Josué pour le peuple, tous les grands hommes de la Bible, et surtout après les prêtres pour le peuple juif. Mais, comme il est dit dans ce verset, disons-le, de plus, les prêtres se sont succédés en grand nombre parce que la mort les empêchait de demeurer. Mais lui, parce qu'il demeure toujours, il possède un sacerdoce inaliénable. C'est donc une des trois vocations de Christ d'avoir ce sacerdoce d'intercéder pour nous. Et il est inaliénable pour l'éternité. Un sacerdoce, donc j'ai mis une définition juste pour vous demander c'est quoi. Bon, c'est le privilège donné à certains d'interfacer avec une divinité dans le monde sacré, de sacré, pour prier, pour offrir des sacrifices et prier au nom du peuple, ou pour transmettre au peuple certains enseignements. Alors, que fait Jésus comme notre intercesseur? Ce qui doit nous rassurer. Je vais vous montrer trois choses qui semblent être dites dans la Bible qu'il fait. La première, on l'a vu, le Christ prie pour nous lorsque nous sommes tentés. Il prie spécialement pour cela, parce que nous serons continuellement tentés quand nous serons dans ce monde. Mais le Seigneur prie pour nous et il a promis que nous ne serions pas tentés au-delà de nos forces. Il préparera le moyen de s'en sortir. 1 Corinthiens 10, 13. Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen de s'en sortir afin que vous puissiez la surmonter. Donc il n'est pas dit qu'il n'y aura pas de tentation. Et si Jésus est un médiateur parfait, c'est parce que lui aussi a été tenté. Il n'a pas cédé, mais il a été tenté en toute chose, comme on le voit avant son ministère dans le désert. Et la Bible nous dit en Hébreux 2:18, « Car du fait qu'il a souffert lui-même quand il fut tenté, il peut secourir ceux qui sont tentés. » Est-ce que là, cela ne peut pas nous rassurer ? Jésus comprend ce qu'est la tentation et les tentations. Et je vais vous dire que c'est quelque chose qui est très différent pour chacun, des fois on ne comprend pas. Parce que Satan attaque là où ça fait mal à chacun, là où nous sommes faibles. Tournez-vous vers Jésus, notre intercepteur. Est-ce que ça veut dire que nous allons être de super-héros ? Oui, notre vocation, c'est la sainteté. Tous les hommes de Dieu vont chercher cette sainteté. Mais est-ce que nous ne pécherons jamais ? Vous le savez, certes non. Mais nous pouvons prier Jésus comme il nous l'indique dans notre Père. Ne nous laisse pas entrer en tentation. Quand même, demandons l'aide de Jésus. Parce que l'ennemi cherche, il dit, à dévorer chacun, mais si nous avons Jésus, il veut nous garder de cela. Parce qu'il sait les terribles souffrances que ça va nous faire. Parce qu'il sait les conséquences. Et je vais vous dire, il est comme un grand frère. Il est le Fils de Dieu, mais il est votre frère. Il prie pour toi, pour que tu n'entres pas en tentation. Donc nous avons un rôle quand même nous vont dire un non ferme à la tentation, parce qu'il faut s'y résister. D'ailleurs, Jésus dit à un moment « arrière Satan ». Mais nous avons l'aide de Jésus. Et il va très loin, Jésus, parce qu'il nous dit en Matthieu 5, 29, par exemple, des fois, il faut couper. Des fois, il faut couper. Et si je vous dis, c'est parce que le Seigneur va vous aider à le faire. Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. Toujours Jésus nous pousse, mais il le fait avec amour. Il sait que c'est pour notre bien. Voilà, première raison pour laquelle Jésus prie. Il prie pour que nous ne manquions pas en tentation. Et nous pouvons demander, Père, aide-nous. Deuxièmement, le Christ plaide pour nous quand nous avons péché. Comme il est dit, nous sommes pécheurs. 1 Jean 1, 10, comme le dit Jean. 1 Jean. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous le faisons menteur. Nous mentons. Nous savons que nous avons des péchés. Et sa parole n'est point en nous. Ce combat, l'apôtre Paul en est très conscient. Comme les autres d'ailleurs. Je vais citer Paul. Paul, en Romains 7, 24, 25, dit « Qui me délivrera de ce corps de mort ? Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort ? Grâce soit rendue à Jésus-Christ, à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement, quand on réfléchit, esclave de la loi de Dieu. Alors je dis, je fais des belles paroles et tout, je suis esclave, mais je le sais, dans ma chair, je suis esclave du péché. » Luther illustra très bien ce combat, je trouve, sur un coin de table, en disant à quelqu'un, « Je m'étais imaginé que le vieil homme avait été noyé dans l'eau du baptême, et je me suis aperçu que le bougre savait surnager. » Notre vieille nature revient, et pour autant, de s'engager dans les eaux du baptême, en disant, Seigneur, je veux noyer mon vieil homme avec toi. Tous tes péchés vont être lavés blancs, plus blancs. Oui, nous voulons rester dans cette communion. Blanc, plus blanc que neige. Et des fois, notre vieil homme, des choses qui nous tiraillent reviennent. Mais moi, je vais vous dire cette parole que dit Jésus. Oui, nous savons que c'est un combat. Donc quand nous avons reçu le Christ comme notre sauveur, nous sommes nés dans la famille de Dieu. Nous avons une nouvelle relation avec Dieu, il devient notre Père Céleste. Il veut que nous prenions plaisir à cette présence. Et quand nous lui obéissons, justement quand on est pardonné à ce moment-là, c'est merveilleux, nous jouissons de la communion avec lui. Est-ce que cette communion peut être brisée? Oui. Et qu'est-ce qu'il a pris? La brise, c'est le péché. Quand nous péchons, notre communion avec le Père est rompue. Nous demeurons toujours son enfant, et le péché rompt notre communion avec lui parce que Dieu est un Dieu saint. Un autre passage qui dit que vous n'êtes pas approchés d'une montagne sainte comme le peuple hébreu, mais du Dieu vivant. Et tous craignaient dans le passé, ils savaient qu'ils mourraient à l'instant même. Nous ne pouvons pas nous approcher du Dieu vivant si nous ne sommes pas saints, donc vus au travers du sang de Jésus. Hébreux 10, 26, 29 nous dit « Car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et de l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde sur la déposition de 2 ou 3 témoins. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu ?» qui aura tenu pour profane le sang de l'Alliance par lequel il a été sanctifié et qui aura outragé l'Esprit de la grâce. C'est ce qui nous fait. Voilà le Dieu saint, vivant. Est-ce que notre communion avec Dieu peut être rétablie? La réponse est oui. Oui. Et c'est qui l'a rétabli? C'est le Seigneur Jésus. Parce qu'il intercède pour nous quand nous péchons. 1 Jean 2, 1. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Nous avons un avocat. Jésus est notre avocat auprès du Père quand nous avons péché. Il demande au Père de nous pardonner nos péchés par amour pour lui, pour son Fils Jésus. Considérons notre propre vie. Que pensez-vous de l'attitude de Jésus face aux recoins sombres de notre vie, que nous seuls connaissons et que nous n'avons même pas à connaître là dans l'assemblée, mais Jésus les connaît. Ton alcoolisme, ton addiction à la pornographie, tes fréquents accès de colère, tes pratiques douteuses en affaires, ton ressentiment et tes médisances dans le dos de certaines personnes. Où est Jésus dans ces moments? Où pensez-vous qu'est Jésus? Dans ces moments-là, Jésus est notre intercesseur et notre avocat auprès du Père. Dieu connaît ses recoins les plus sombres de ta vie et de ma vie. Il ne veut pas qu'on s'explique. Il ne veut pas qu'on trouve des excuses, juste qu'on lui apporte nos égarements. Il les connaît déjà. Apporte ses égarements à Jésus qui intercède pour toi. Dieu connaît chacun de ses recoins les plus sombres. Quand notre communion est rétablie, eh bien, il est dit en 1 Jean 9, au moment où nous confessons nos péchés au Père, il est dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Nous avons un Dieu qui ne se lasse pas de pardonner, mais il ne peut pas pardonner si nous n'avons pas ces recoins-là. Et si Jésus est le médiateur parfait, c'est parce qu'il a payé la dette. Et comme avocat, il vient aussi avec son sang. Quand nous péchons, Jésus peut montrer l'empreinte des clous dans ses mains et dire « Père, je sais que celui-là a péché. Mais j'ai payé pour ses péchés. Je l'ai racheté par mon propre sang. Il m'appartient. » Alors, si nous avons une quelconque faiblesse, ne la cachons pas. Dis tout à Jésus. Fais-en part à Jésus. Car il sait comment t'aider. Hébreux 4, 15, 16. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Il nous faut donc chaque matin revenir à Jésus au pied de la croix et demander pardon pour nos péchés dont nous sommes conscients et même inconscients. Car nous avons un saint sacrificateur qui compatit nos faiblesses. Et il y a une troisième chose, je pensais qu'avec ces deux choses, il y en a peut-être d'autres qu'il fait. On a vu que Jésus prie quand nous sommes tentés. Il rétablit notre communion avec le Père quand nous lui demandons pardon par Jésus. Mais il y a une troisième autre chose merveilleuse qu'il fait, que je veux vous dire. Il présente nos prières au Père. Le Seigneur Jésus dit en Jean 16, 23, « Ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. » C'est par Jésus que nous prions. Il est notre intercesseur parfait parce qu'il est le Fils bien-aimé de Dieu. Il est son Fils. Nous sommes ses frères. En résumé, quand le Seigneur Jésus était ici sur terre, il priait souvent, très souvent pour ses disciples qui entraient en tentation. Pierre, quand le coq va chanter, qui s'endormaient alors qu'il leur demandait de prier. Il les aimait. Et je vais vous dire, Jésus nous aime, Jésus t'aime. Il prie pour toi, pour te préserver du mal. Croyons fermement que Jésus est maintenant vivant. Et c'est cette réalité qui peut t'encourager ce matin, que Jésus est vivant. Il t'aime comme il a aimé ses premiers hommes, ses premières femmes qu'il a rencontrées, comme il le faisait. Et donc il prie dans trois domaines. Quand nous sommes tentés, il plaide pour nous auprès du Père quand nous avons péché, et il présente nos prières au Père. Je propose, parce qu'on dit dans une méditation, une prédication, il faut toujours une application pratique pour nous. Je vous propose trois applications pratiques dans nos vies aujourd'hui. La première application, peut-être de prier sans cesse pour notre sanctification, de juste reprendre cette prière de notre Père chaque matin, chaque fois. Pourquoi ne pas prier, Seigneur, garde-nous d'être tentés. Parce qu'il sait que le piège est derrière, on sait toutes les conséquences. Garde-nous d'être tentés et éloigne-nous du mal. Des fois, il vaut mieux l'éloigner que de dire on va être plus fort que le mal. Éloigne-nous du mal. Alors, c'est Jésus, votre intercesseur. Il y a des fois où la tentation, où les liens du passé sont trop forts, où notre vieil homme est là, insistant. Ma recommandation serait de demander à votre serviteur de Dieu, au pasteur, parce que c'est sa vocation. Je rappelle, le pasteur, son ministère, garder le troupeau et par le brebis égaré. Il peut vous aider dans la prière, mais c'est lui, c'est Jésus qui prie pour vous. La deuxième application, c'est lorsque nous péchons, qu'on l'a réalisé. Ne minimisons pas notre péché, ne l'excusons pas, ne présentons aucune défense, mais soumettons simplement notre cause à celui qui est déjà assis à droite du Père. Et voilà, et demandons, pardonne-nous nos offenses. D'ailleurs, il est dit, la seule chose pratique que je vous conseille, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et si vous prenez cette prière, on comprend mieux ce que nous devons faire pratiquement. C'est nous pardonner aux autres, pardonner à ceux qui nous ont offensés. Puisqu'il est dit, pardonne-nous comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. La troisième application, si peu, nous ne savions même plus comment prier. Alors, il est dit dans la parole, c'est celui qui demande la sagesse au Saint-Esprit, à Dieu, ben c'est ça, si nous n'avons plus la force, nous ne savons même plus comment prier. Demandons au Saint-Esprit de nous guider, demandons à Jésus, et même si vous n'avez plus la force, je dis ce matin, ayez conscience que Jésus est là, qu'il prie pour toi auprès du Père. Et il dit, voir, cet enfant, elle n'a même plus la force de prier. Mais maintenant, je te la présente et c'est le Seigneur à se révéler pour t'aider dans ta souffrance parce qu'il connaît ta souffrance. Il connaît ce qu'il y a dans ton cœur. Il veut te faire du bien ce matin. Il veut te transformer, il veut te régénérer. Il veut te délivrer de tes péchés car ce sont toujours nos péchés qui nous empêchent d'avancer vers la sainteté. Pour conclure, j'aimerais reprendre cette injonction de Paul aux Corinthiens. Nous vous en supplions au nom de Christ. Soyez réconciliés avec Dieu. Et rappelez-vous que où que vous en soyez avec Jésus aujourd'hui, où que tu en sois ce matin, Jésus intercède pour toi auprès du Père. Je vous propose un temps de recueillement en silence pour méditer ce que les paroles que nous avons entendues. Puis de continuer, après ce petit temps, groupe de louanges, en chantant ce chant comme une prière, le Notre Père. Parce que comme on l'a vu, le Notre Père, version glorieuse, beaucoup des choses que nous devons prier sont dans cette prière de Notre Père. Si le groupe, voilà, je crois que c'est important de prier en silence dans nos cœurs, parce que Jésus connaît lui-même ce que nous avons fait.